L'astragale de Marseille est un bijou de l'évolution qui a su s'adapter aux conditions extrêmes de vent, de sel et d'aridité du littoral des Calanques.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chronique astragale. Je suis Manon et j'animerai cette première édition spéciale hors les murs. Aujourd'hui, c'est donc notre invitée Léna Cardo qui m'accueille au réfectoire, un véritable espace de vie, un lieu ressource et solidaire pour les habitants du quartier de la Cabucelle. À seulement 25 ans et après la fin de ses études, Léna endosse le rôle de responsable associative puisqu'elle a cofondé l'association 13 Solidaire qui assure aujourd'hui la gestion du réfectoire et qui a fêté récemment ses 4 ans. Bonjour Léna, comment vas-tu ?
Bonjour, ça va très bien, merci.
Merci déjà de me faire découvrir ce lieu qui est un lieu important pour toi, puisque tu l'as pensé, tu l'as rêvé, tu l'as co-construit, j'imagine, en collaboration avec les habitants du quartier ou les associations de ce quartier. Pourquoi et dans quel contexte le réfectoire est né ? Est-ce que tu peux me dire un peu avec quel objectif ce lieu de vie a été pensé ?
On a créé cette association tout simplement parce qu'il n'y avait pas de centre social dans ce quartier, qui est un des quartiers les plus pauvres de Marseille, si ce n'est le plus pauvre. Et du coup, on avait à cœur de proposer des animations qui puissent créer du lien social et qui puissent aussi favoriser l'accès à la culture pour tous. On est aussi un restaurant le midi, donc on est ouvert du lundi au vendredi, avec pour objectif en fait de combler le manque d'alternatives aux snacks et aux boulangeries. Pour avoir travaillé ici quand j'étais plus jeune et fait mes premiers stages, je me suis vite rendu compte que il n'y avait pas d'offre qui vraiment me donnait envie le midi et c'est aussi pour ça que j'ai créé cette association-là.
Il y a donc dans un premier temps un amour de la restauration, de la nourriture, j'imagine. En dehors de cet espace restauration qui est d'ailleurs, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais très coloré, plein de vie. Quelles activités se déroulent au sein de ce réfectoire ? Il y a des dessins partout, il y a des livres partout. On sent qu'il s'y passe plein de choses et qu'il y a un vrai objectif de création de liens sociaux. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ça ?
Déjà, je suis passionnée de lecture, donc pour moi c'était hyper important qu'il y ait beaucoup de livres en bas. Et enfin en bas parce que, alors je précise, on est dans une des salles qui se situe au-dessus du réfectoire, mais voilà, qu'il y ait beaucoup de livres au réfectoire. Et on a eu la chance de remporter un appel à projet proposé par Bibliothèque sans frontières et la Fondation Cultura, qui nous a permis d'avoir plus de 1300 livres à disposition en bas, au réfectoire. On propose pas mal d'activités variées. Ça commence le lundi matin avec des cours de français pour des adultes qui ne maîtrisent pas la langue. Ça continue avec de l'aide aux devoirs pour des collégiens et des primaires les lundis et jeudis après les cours. On accueille une permanence de la mission locale le mardi. Le matin, c'est une crèche mobile qui pose ses affaires et qui accueille des enfants à partir du moment où ils savent marcher jusqu'à leurs 3 ans. On a des cours de danse pour les adultes, gratuits. Le mercredi matin, on propose des ateliers pâtisserie à des enfants qui sont en décrochage scolaire et qui sont accompagnés par un programme national. L'après-midi, c'est des activités en famille qui sont tournées autour de la culture, donc c'est beaucoup de peinture. Il y a une grosse appétence pour la peinture, des jeux de société. Enfin, voilà, on fait beaucoup de choses. Et pendant les vacances, on va plus faire des sorties culturelles, on va aller à la mer, enfin, des choses que les enfants n'ont peut-être pas l'habitude de faire en semaine.
Merci Léna. En tout cas, pour moi, ça a l'air d'être un projet vraiment engagé et mis au service des personnes du quartier. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as toujours eu cette fibre un peu sociale et j'ai même envie de dire artistique parce que tu me parles aussi beaucoup de littérature, de peinture, etc. Comment tu étais enfant et même étudiante, est-ce que tu avais déjà toutes ces passions ?
Peut-être que c'est indirectement lié. C'est vrai que je ne me suis jamais trop posé la question, mais ma mère, pour le coup, est artiste, Donc, c'est vrai que quand j'étais petite, elle était à la maison en train de créer des costumes. Elle faisait beaucoup de peinture. Après, la littérature, pour moi, ça a été vraiment comme un refuge. Je me retrouvais souvent dans ma chambre à lire des livres. Et pour ce qui est de l'engagement, oui, j'ai toujours eu cette fibre-là. Mais c'est vrai que pour moi, enfin, monter un lieu comme ça a toujours été dans un coin de ma tête. Mais jamais je me suis dit que ça pouvait être réalisable. Et puis, je me disais plutôt, bah, de base, je rêvais de devenir journaliste. Et je me disais, bah, enfin, quand j'aurai 40 ans, peut-être en fin de carrière pour moi, bah, je monterai un lieu comme ça. Je ne pensais pas débuter ma vie professionnelle en ouvrant un lieu comme le réfectoire.
Donc effectivement, tu l'as dit, mais c'est arrivé très vite. Si je me trompe pas, je crois que j'ai dit que tu avais cofondé, pardon, l'association à 24 ou 25 ans. J'ai pas pu le chiffrer, mais en tout cas, tu as fait ça à la sortie de tes études. Enfin, quel a été le déclic finalement pour bah, ne pas attendre les 40 ans et te lancer dès les 25?
Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ça arrivait beaucoup plus tôt. Déjà, le Covid, ça a pas mal joué. Du coup, comme je disais, moi, je faisais mes études et j'étais en dernière année de master juste avant le Covid. Donc, j'étais partie à l'étranger pour un échange. J'ai fait mes études sur Paris, il faut aussi recontextualiser. Donc, j'étais partie de chez mes parents depuis que j'avais 18 ans. Et avec le Covid, bah, quand on se retrouve à des kilomètres de la France, quand on rentre et qu'on n'a pas de logement, on est obligé de retourner chez mon père en l'occurrence. Et du coup, ça a un peu cassé, on va dire, un rythme peut-être. Et du coup, bah, je suis retournée à Marseille alors que moi, je m'étais projetée de vivre ailleurs. Il y a eu ça. Il y a eu aussi le fait que bah, je voyais que mon rêve de devenir journaliste s'éloignait un peu de moi. J'étais en stage en fait dans un média local et je me rappelle qu'à la fin on m'avait dit mais en vrai Léna si t'as envie d'être embauchée tu pourrais et je disais mais enfin il y a pas des finances et on m'a dit un des journalistes qui était présent m'a dit mais tu sais t'as qu'à aller taper à la porte de deux fondations et prendre financer un salaire et je me suis dit bah en fait si c'est aussi facile que ça d'aller chercher de l'argent autant chercher des fondations pour me suivre sur un projet qui me ressemble et où, bah ouais, enfin, c'est pas que je devrais rendre de compte, pardon, à personne, mais je pourrais monter un truc qui me ressemble plus.
D'accord, donc il y a quand même eu effectivement ce basculement. Est-ce qu'il y a des causes qui t'animent particulièrement? Parce que je trouve que c'est quand même un lieu pluriel finalement que tu nous décris là.
Il y en a plein, mais je pense que ce qui me tient le plus à cœur, c'est, ça va sembler bateau de dire ça, mais que les personnes se sentent bien et qu'elles ne se sentent pas rejetées. Parce que je pense que le rejet, c'est la chose la plus dure. Et du coup, ouais, enfin, j'ai envie que qu'importe les moyens. Ben, on puisse se sentir bien. Moi, je sais que j'ai été privilégiée, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier de plein de trucs parce que mon père gagnait bien sa vie. Et oui, j'ai envie que tout le monde puisse avoir cette chance-là malgré l'origine sociale. Et voilà. Et du coup, c'est pour ça que le réfectoire, pour moi, je l'ai vraiment pensé. Je voulais que ce soit comme une maison. J'ai grandi dans une maison et j'avais envie que ce soit. Bah voilà, comme une maison pour tout le monde, qui soit accueillante, chaleureuse et dans laquelle on se sente bien. Et là, je vais reprendre la phrase d'un de mes collègues. C'est pas un lieu où on va pouvoir résoudre forcément les problèmes, mais pendant un certain temps, on va pouvoir les mettre de côté, tant qu'on y est.
En tout cas, je te confirme qu'on s'y sent bien. Moi, c'est la première fois que je venais. Et comme je te disais, ça dégage tout de suite une atmosphère chaleureuse et bienveillante. Donc, bravo pour ça. Est-ce que, bon, c'est déjà incroyable d'avoir créé ça, mais est-ce qu'il y a un moment marquant ou de quoi tu te sens aujourd'hui la plus fière? Parce qu'effectivement, je pense que tu as rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de situations différentes. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ah, ça, voilà, ce projet, effectivement, ça vaut vraiment la peine?
Ces 2 dernières années, surtout depuis que Marie a rejoint l'aventure, oui. Enfin, il y a même, enfin, cette semaine par exemple, on est allé à une répétition pour une représentation de danse qui va avoir lieu le dimanche 22 juin. C'est une maman qui a conduit les autres participantes ainsi que Marie. J'ai vu les vidéos dans la voiture. Enfin, c'était ça dansait, chantait, ça respirait la bonne humeur. On a eu la chance d'accueillir un animateur en BPJEPS en stage pendant un certain temps l'année dernière, qui a tissé un lien hyper fort avec les jeunes qu'on accueillait et qui leur a permis qui les a sensibilisés à la végétalisation. Donc on a fait des petites plantations avec des plantes qu'on nous avait données. Et il a responsabilisé ces jeunes qui sont encore en primaire, donc qui ont entre 10 et 12 ans. Et quasiment un jour sur deux, entre midi et deux, ils courent, ils rentrent au réfectoire pour vérifier que les plantes sont bien arrosées. Elles n'ont pas trop supporté la chaleur et je peux vous dire que ça a été un sujet très, très sensible, vraiment très, très sensible.
Super, merci beaucoup. Je remonte un peu en arrière, mais les questions aussi affluent. Finalement, quelles ont été les difficultés qui se sont mises sur ton chemin aussi à la création du réfectoire ? Est-ce que ça a été aussi facile que toquer à une porte, comme le disait ton collègue journaliste ? Ou est-ce que, dès le début, les personnes ont cru à ton projet ?
Ça a été beaucoup plus difficile. Je pense que déjà, il y a une année où quasiment il ne s'est rien passé, si ce n'est moi qui ai essayé de monter des dossiers, trouver des financements, parce qu'il ne fallait pas que des financements pour faire vivre le projet, proposer des actions. On avait un lieu, qu'on a toujours du coup, qui fait 200 mètres carrés, mais qui était à rénover entièrement. Je ne sais pas si tu as pu voir les photos qu'il y avait et qu'on a affichées dans le fond de la salle. Ça a été un restaurant il y a 10 ans, mais c'est devenu un cabaret entre-temps, une zone de stockage, donc on avait tout à refaire. Donc pendant un an, vraiment, je me suis sentie très, très, très seule. Mais c'est vrai que j'avais pas peur non plus d'essayer de présenter le projet. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir des personnes qui ont cru au projet très rapidement. Dont la Fondation de France, qui a été un des premiers gros mécènes à nous soutenir, et notamment une incubation qui s'appelle Entrepreneur dans la ville et qui m'a beaucoup aidée dans le montage de ce projet-là.
Donc, t'as quand même pu être entourée, mais en tout cas, ça reste très impressionnant d'avoir lancé ça finalement dès la sortie d'études. Et tout à l'heure, je crois que tu as évoqué différentes villes dans lesquelles tu as pu vivre en dehors de Marseille. Je crois que tu as parlé de Paris, si je me souviens bien. Et aussi, tu as dit que tu avais été également à l'étranger. Et j'ai cru comprendre que tu étais marseillaise. Donc, qu'est-ce que ça fait un petit peu, finalement, de découvrir ces différentes ambiances de vie ? Qu'as-tu appris en partant de Marseille, mais aussi en y revenant, finalement, quelques temps plus tard ?
Déjà, c'est en partant de Marseille que j'ai pu découvrir des lieux qui étaient un peu, on va dire, alternatifs. On va reprendre le mot qu'elle puisse utiliser, je pense, mais tiers-lieux. Donc c'est en faisant mes études que j'ai pu découvrir des lieux comme ça et commencer à m'y intéresser, parce que du coup moi j'ai grandi à Marseille dans le 15e et le 14e, donc c'est pas forcément en tout cas moi quand j'ai grandi ici qu'on pouvait trouver des lieux comme ça. J'ai été dans une fac une très vieille fac assez reconnue, mais qui du coup avait une façon d'enseigner à l'ancienne, on va dire. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir aller faire des échanges à Londres et aux États-Unis, où vraiment, là, on découvre une autre manière d'enseigner. Et ça, ça m'a vraiment passionnée sur le coup, en fait, de comment on peut prendre les passions des élèves pour essayer de leur apprendre des choses, comment on va plus favoriser l'épanouissement, la prise de parole. Et tu parlais des causes qui m'animent le plus. Et c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais je trouve que donner les clés aux personnes de se connaître, de connaître leurs passions, de pouvoir, pour reprendre le terme, s'épanouir et même s'émanciper, moi, c'est un des trucs qui me tient le plus à cœur.
Et dans le cadre de ce lieu, justement, c'est ce que tu cherches à impulser. Tu l'as déjà un peu dit tout à l'heure en parlant des réussites, mais comment les habitants du quartier ont accueilli le lieu ? Est-ce qu'ils s'en sont bien saisis comme tu l'espérais ?
Aujourd'hui, ouais, on peut dire qu'on a quand même un bon groupe d'habitants qui s'est saisi du lieu, enfin, des familles et surtout des mamans. Et ouais, ça, c'est une de nos plus grosses fiertés quand même.
Bon, bah c'est super en tout cas. Et donc tu es très engagée, comme tu l'as dit, par ces causes. Et j'imagine qu'être entrepreneur aussi jeune, avoir un lieu comme ça, donc tu as évoqué une salariée tout à l'heure, donc vous êtes deux, mais avoir un lieu à gérer comme cela, ça doit laisser peut-être parfois un peu peu de temps, ou occuper en tout cas beaucoup d'espace mental. Comment tu arrives, entre guillemets, aussi à sortir de ça, à travers, je ne sais pas, des proches ou des passions? Est-ce que tu arrives quand même de temps en temps à prendre du temps pour toi?
Du coup, ouais, aujourd'hui, on est trois salariés. Et c'est vrai que de passer de une personne à trois, ça fait quand même pas mal de. Enfin, ça soulage pas mal sur tout ce qui est charge mentale. Et surtout, bah, avec Marie, du coup, qui est mon binôme sur ce projet, on fait tellement attention l'une à l'autre que, en fait, bah, on arrive plus facilement à prendre du temps pour soi. Tu parles des passions, bah moi, vraiment, ce que j'adore, c'est la danse. Et depuis l'année dernière, j'ai pu reprendre mes cours de danse au moins une fois par semaine. Maintenant, j'arrive à en faire deux cours par semaine. Ouais, on essaie d'accorder, pardon, de l'importance aux activités à côté et les proches. Moi, j'ai une bande de meilleurs amis depuis que je suis au collège, et c'est vrai que ça aide beaucoup de savoir qu'on est entouré et qu'on peut décompresser avec ses amis.
Et tu fais quel type de danse alors?
Je fais du jazz, modern jazz, et j'ai commencé l'année dernière de la pole dance. Voilà.
Ok, super challengeant apparemment, à ce qu'on m'a dit le pole dance.
C'est un sport très complet. Et en termes de musculation et de souplesse, bah, c'est hyper complet.
Merci beaucoup Léna. Comme on a l'habitude de le faire dans cette émission, on aime beaucoup la musique. Est-ce que c'est ton cas? Quel rapport entretiens-tu avec la musique?
J'adore la musique et j'ai un rapport, enfin pas particulier, mais c'est vrai que mon grand frère... travaille dans la musique. Il a travaillé dans une boîte de production de musique, je sais pas comment expliquer, et a réalisé beaucoup de clips. Donc c'est un peu une passion qui nous a transmis à mon petit frère et à ma sœur.
Eh bien, du coup, ça tombe très bien. Est-ce que tu peux nous partager la musique, ton morceau du moment qu'on pourra écouter tout de suite?
En ce moment, j'écoute beaucoup du Théodora et le titre que j'adore en ce moment, c'est Il me rit tout son nez.
Allez, on va l'écouter.
Personnel, des messages d'un hypersommeil. Donc j'ai le plaid et le pansonnier. Pourtant je suis juste passionnée.
J'espère que cette musique t'a plu en tout cas. Moi, de mon côté, je ne connaissais pas du tout. Donc, ça me l'a fait découvrir. Franchement, je suis super contente. Tu parlais tout à l'heure de danse. Donc, j'imagine que qui dit danse dit effectivement, même outre donc, la situation de ton frère, ça a quand même une certaine importance. Est-ce qu'il y a une musique sur laquelle tu aimes particulièrement danser ?
Avec mes amis, oui, bien sûr, il y en a plein. Après... une chanson sur laquelle j'aimerais beaucoup écrire une chorégraphie, c'est une chanson dont je t'ai déjà parlé qui s'appelle Work et qui pour moi a été très marquante à la création de l'association parce que, avec beaucoup de musique, on se retrouve dans les paroles et moi j'avais l'impression que cette chanson me parlait et qu'elle m'a vraiment accompagnée au début. Et c'était un peu comme une berceuse où je suis un peu insomniaque. Donc c'était une chanson que j'aimais bien écouter. Quand j'arrivais pas à m'endormir, elle me calmait. Et Work de Charlotte Day Wilson, je crois.
Super, merci. On va l'écouter dans quelques instants si tu es d'accord. Mais donc c'est rigolo quand même. Donc ce fait de pas dormir et de t'imaginer effectivement... peut-être une chorégraphie là-dessus. Et quand tu étais plus jeune, t'évoquais aussi les musiques que tu aimais écouter ou en soirée avec des amis, etc. Est-ce que tu avais les mêmes goûts musicaux qu'aujourd'hui ou pas du tout?
Je pense que mes goûts musicaux ont beaucoup évolué. Oui, c'est vrai que quand j'étais jeune, j'écoutais surtout... ce qui passait sur Skyrock ou sur MTV, des clips qui passaient toute la journée. Chose que je pense que j'écoute encore aujourd'hui, mais surtout quand je suis avec mon frère et ma sœur ou mes potes en soirée. J'ai déjà parlé de mon grand frère, mais c'est vrai qu'il a eu une énorme influence sur mes goûts musicaux parce que du coup, il m'a fait découvrir un autre genre qui était plus un genre rock, folk... Je pourrais pas citer là, mais un peu plus, on va dire. J'ai pas le terme. Mais il a travaillé avec des artistes. Bon, là, c'est pas du tout rock, mais comme Oxmo Puccino et des groupes comme Falls. Et c'est vrai que ça m'a permis de découvrir d'autres artistes.
Quelle chanson ou quelle musique, selon toi, définirait le plus Marseille ?
Waouh ! D'un coup, comme ça, moi, j'ai besoin de vérifier. J'ai peur de me tromper dans les titres. Désolée aux auditeurs si je me trompe, mais moi, je pense à « Je suis Marseille ». C'est très organisé, je me trompe pas.
Oui, oui.
Avec IAM, ok, ouais, voilà. De suite, j'ai pensé à ça.
Tu te trompes pas et c'est même très drôle parce que souvent, on enchaîne notre dernière partie de questions sur Marseille avec justement cette chanson. Donc voilà, ça m'a fait sourire en tout cas que tu l'évoques. Effectivement, pour changer, on va peut-être écouter ta musique totem dont tu nous as parlé tout à l'heure. Et bien sûr, pas de souci, on passera également « Je suis Marseille » puisque tu l'aimes et puisque en plus, effectivement, elle représente très, très bien Marseille.
Take a bit of work.
take a little time. But with you by my side, I won't let go till I've got what's mine. 'Cause people come and go.
Très hypnotisant en tout cas. En plus, on avait aussi le clip sous les yeux et waouh, elle fait quelque chose. En tout cas, je te confirme. Peut-être dernière question pour clôturer cette section musique. Est-ce que tu as un morceau qui t'évoque, je sais pas, une période de vie ou un mood un peu particulier? On a l'habitude des fois de demander effectivement, est-ce que tu as en fait une musique un peu Madeleine de Proust?
Il y avait un peu celle-là. Hein. Enfin, j'en ai plein. En plus, je suis du genre, enfin, comme beaucoup, hein, à écouter en boucle des musiques. Y en a une qui me rappelle une période. Mais en vrai, c'est pas très fun de parler de ça, donc je sais pas si. Mais je vais la citer, c'est Passion Fruit de Drake, 2017. Voilà. C'est le moment où j'ai perdu mon grand-père et je sais pas, j'ai écouté cette chanson en boucle, donc ça me rappelle cette période-là de ma vie.
Merci. Bon, en tout cas, désolée pour ton grand-père. C'est vrai que c'est la question des fois qui, effectivement, comme tu dis, peut faire rappeler des bons comme des moins bons moments et des moments un peu nostalgiques. Donc en tout cas, merci de partager ça avec nous aujourd'hui. Je vous l'avais promis et en plus tu as l'air également peut-être d'y tenir particulièrement vu qu'elle t'est venue assez directement en tête. Avant de passer à notre section musique, peut-être quelques secondes de la musique Marseille et ça nous permettra effectivement de parler de cette ville dans laquelle tu as grandi.
L'école était accrochée à un flanc de colline surplombant une ville vieille de 3 millénaires. Lorsque la nuit tombait, étalant son voile noir sur la cité, sa robe scintillait de milliers de lumières oranges. Ouvrez les yeux, vous êtes à Marseille.
Je suis de l'époque où cette ville a connu tant de peines, où sa jeunesse s'envoyait du rêve dans les veines.
J'ai cru comprendre, Léna, que tu étais de Marseille, ou tout du moins que tu avais grandi à Marseille. Est-ce que tu as toujours vécu ici et quel est ton rapport à Marseille?
Je suis arrivée à Marseille quand j'avais 3 ans. Donc, c'est vrai que je dis pas que je suis de Marseille parce que j'aurais l'impression de mentir, surtout que j'ai pas l'accent, que mes parents n'ont pas l'accent, et qu'on, je suis née en banlieue parisienne. Donc, voilà, il y a rien qui va. On me l'a beaucoup rappelé quand j'étais petite, parce que je suis arrivée en primaire dans le 15e arrondissement. Et je peux te dire que quand tu dis que t'es née à côté de Paris, tu prends tarif. Donc, ouais, toute mon enfance, j'ai pris tarif. Donc, aujourd'hui, je pourrais jamais dire que je suis vraiment marseillaise, mais j'ai grandi à Marseille.
D'accord. Bon, pourtant, aujourd'hui, quand même, alors je sais pas, tu as 27, 28 ans, ça fait quand même un petit moment où... Ouais. Toujours pas. Il y a des traumatismes qui restent.
Ouais, ouais. Non, je pourrais jamais me revendiquer marseillaise, je crois. Enfin, si, bien sûr, mais voilà, je suis pas de Marseille.
D'accord. Pour autant, en tout cas, ça fait longtemps que tu vis ici et tu y es revenue. Tu as quand même créé un tiers-lieu. Donc, quel est ton attachement à cette ville ?
Je suis, enfin, hyper attachée. Enfin, c'est ma ville. Enfin. C'est vrai que je l'ai rejeté beaucoup quand j'étais ado, parce que voilà, quand tu grandis pas en centre-ville, je vais pas faire de généralité, mais en ayant grandi dans le 14e, j'avoue que je kiffais pas du tout Marseille. T'étais dépendant de tes parents pour bouger, parce que en vrai, marcher 20 minutes pour prendre ton bus, puis avoir deux changements de bus, puis aller prendre le métro pour aller au Vieux-Port, ça prenait une heure et demie. La mer, moi, franchement, j'y allais jamais quand j'étais petite. Je m'étais pas approprié la ville. Et vraiment, même, j'ai eu la voiture tôt, à mes 18 ans. Mais voilà, c'est que des embouteillages. J'avoue, ça m'angoisse un peu. Et en fait, quand je suis allée à la fac, j'ai eu mon petit groupe de copines que je me suis fait dès le premier jour. Et du coup, elles sont venues me voir souvent les étés. Et là, j'ai commencé à découvrir Marseille autrement, à découvrir des endroits comme le Cours Julien, le Panier. Enfin, voilà quoi. Je l'ai découvert différemment parce qu'il fallait que je fasse visiter mes copines. Donc en fait, c'est comme si moi aussi, avant, j'étais une touriste dans ma propre ville. Et vraiment, le point de non-retour, c'est-à-dire où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus partir de Marseille, c'est vraiment quand je m'y suis projetée en ouvrant le réfectoire.
Quand tu es revenue, en tout cas, c'est fort quand même de ce que tu as dit, de te sentir un peu comme une touriste dans ta propre ville. Et ça souligne aussi plein de, peut-être de soucis, effectivement, d'accessibilité, d'infrastructure, etc. Est-ce que tu peux nous parler peut-être maintenant de la Cabucelle? En fait, c'est quand même le quartier que tu as choisi pour établir le réfectoire. Est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire de ce quartier? Qu'est-ce que tu aimerais y apporter comme touche avec le réfectoire, et quel lien as-tu aussi avec les habitants ici?
Je vais parler plutôt de mon lien avec le quartier. Du coup, mon père travaille ici depuis que je... Alors, en fait, j'ai plus trop de notion du temps, mais depuis que je dois avoir 14 ans. Et j'ai des souvenirs marquants de le rejoindre quand je faisais mes heures de conduite, quand j'ai passé mon bac de français. Je me rappelle l'avoir fêté, les avoir rejoints en déjeuner au restaurant qui était là avant le réfectoire. J'ai fait mes premiers jobs ici. Pour ça, j'ai un lien fort avec le quartier. J'avais pas forcément de lien avec les habitants, mais c'est vrai que justement, pendant la période du Covid, j'étais en train de rédiger mon mémoire à distance, parce que je ne pouvais pas retourner sur Paris. Et donc, je venais tous les matins avec mon père dans ses bureaux. Et en vrai, quand tu viens ici, surtout, c'était avant qu'il fasse les travaux de rénovation vers Gèze, en fait, tu ne peux pas passer à côté de la précarité. Ça m'a beaucoup marqué et du coup j'avais envie de pouvoir faire quelque chose qui puisse rendre ce quartier un peu plus agréable agréable pardon, à vivre pour les personnes qui y étaient.
Merci. Je ne sais plus si j'ai lu ou j'ai écouté, en tout cas, que tu disais que le réfectoire faisait pas mal de liens avec des associations aussi de proximité ici. Malgré effectivement cette précarité, ces difficultés, est-ce que la Capucelle, finalement, c'est quand même un quartier engagé avec des personnes qui restent solidaires? C'est quoi ta vision là-dessus?
En tout cas, de mon expérience, oui, moi je trouve que c'est un quartier très engagé. En vrai, au quotidien, on travaille avec des acteurs qui sont tellement inspirants. Se dire qu'on est dans le quartier le plus pauvre et qu'il n'y a pas de centre social, mais qu'il y a plein d'actions qui sont menées de manière conjointe. Après, je sais, voilà, j'ai jamais travaillé dans le social dans d'autres quartiers, donc j'ai très peu de comparaison, mais là je sais qu'il y a trois semaines, en mi-mai, on a monté un événement pour les jeunes sans chef de projet. C'est vraiment la déléguée du préfet qui a réuni plein d'acteurs, pas forcément qui sont en lien avec l'insertion, mais qui travaillent pour le quartier. Et vraiment, enfin, l'événement, ça m'a touchée en fait de voir à quel point tous ensemble on a pu monter cet événement. Et je suis trop heureuse aussi de voir que ça fait 4 ans du coup que je suis sur ce projet. Et depuis 4 ans, je crois qu'il n'y a pas vraiment eu de changement sur les acteurs qui sont présents, quoi. C'est des partenariats qui durent depuis 4 ans avec des personnes qui sont là depuis 4 ans.
En tout cas, c'est des dynamiques collectives qui sont, je trouve, super intéressantes et porteuses d'espoir. Et en dehors donc, du travail de la Capucelle, est-ce qu'il y a des endroits où tu aimes aller, que tu aimerais recommander aussi à nos auditeurs?
Moi, mon petit restaurant Madeleine de Proust, pour reprendre le terme, c'est la Vieille Pelle, parce que j'étais, je ne sais pas si tu connais, c'est une pizzeria, restaurant italien qui est situé au Panier, qui est tenu par les parents d'un ami d'enfance, parce qu'on était en primaire ensemble. Donc c'est un peu mon restaurant. Pareil, on va rester dans les souvenirs. Le Pic de l'Étoile, moi j'aimais trop quand j'habitais encore dans le 14e, courir dans la colline derrière la Batarelle. Voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup.
En tout cas, ça donne envie. On prend les bonnes adresses et effectivement, vu les belles assiettes qu'on a vues passer tout à l'heure, surtout les adresses nourriture. Est-ce que la culture et l'identité marseillaise ont influencé ta manière de voir le monde?
C'est-à-dire?
Je pose une colle, désolée, mais tout à l'heure, en fait, quand tu m'évoquais aussi comment tu as pu vivre quand tu étais plus jeune dans ton quartier, etc. Et effectivement, les multiples après voyages à autre ville où tu as pu aller, qu'est-ce que ça t'a finalement appris? Est-ce que ça a influencé aussi une certaine vision des choses dans ta manière aujourd'hui de mener le réfectoire, de faire du lien?
Déjà être naturel et spontané, pour moi je pense que c'est un truc qui nous caractérise pas mal à Marseille, de parler un peu sans filtre, d'être accueillant. Je sais pas, moi on croise quelqu'un dans la rue, c'est notre pote, quoi. Donc ça et l'ouverture d'esprit, enfin du coup moi j'ai grandi dans un milieu assez mixte et l'ouverture d'esprit, enfin accepter tout le monde, quoi.
Merci beaucoup, c'est un beau message de fin sur cette section de Marseille. Léna, si tu le veux bien, on va en profiter, comme on est sur place au réfectoire, pour faire une petite visite guidée à l'oral à nos auditeurs. Nous arrivons donc derrière le comptoir où un grand tableau de bienvenue nous attend. Est-ce que tu veux peut-être poursuivre cette visite, Léna, et nous en dire un peu plus?
Avec grand plaisir. Donc là, comme tu disais, on a un tableau noir réalisé à la craie par Cédric, qu'on a accueilli en stage pendant un an et qui a résumé en fait tout le projet du réfectoire sur notre mur. Donc au moins, quand les personnes viennent, elles peuvent comprendre juste en lisant ce tableau. Juste en dessous, on peut voir le comptoir, réalisé également par Cédric, avec une planche en bois, une nappe et des petits bouts de bois pour permettre de faire un comptoir. Ensuite, quand on avance un peu plus, juste entre le comptoir et les toilettes, on a un petit tableau où on a exposé des photos un peu rétrospectives de l'aménagement du lieu. Donc on peut voir au tout début, en 2021, que ça ne ressemblait à rien. Et on peut voir qu'au fil des années, notamment grâce à des projets participatifs ou des entreprises sont venues nous aider, on a pu habiller notre espace et en faire un lieu chaleureux. Là, on a notre petite desserte parce qu'en fait, on a cette particularité-là d'être une cantine où on ne fait pas vraiment de service à table. Donc, les personnes se servent, ont leurs petits plateaux, leurs assiettes, leurs verres, passent la commande au comptoir et là, on amène les assiettes. Mais ils débarrassent également leurs propres couverts. Ici, on rentre dans la partie bibliothèque, donc le projet qui me tenait le plus à cœur. Qui a été réalisée par une architecte spécialisée dans les projets de réemploi. Et du coup, elle est toute réalisée en réemploi. Et ce sont quatre lycéens en CAP menuiserie qui sont venus bénévolement les samedis pour la monter ensemble et se sensibiliser à une nouvelle façon de faire.
Trop chouette. Et du coup, il y a combien de livres là ? Parce que c'est quand même une bibliothèque assez conséquente, même c'est peut-être pas facile à organiser. Je vois que ça a l'air tout bien trié, etc. Enfin, une vraie bibliothèque.
On a en tout 1300 livres. On n'est pas du tout... pour nous, elle n'est pas encore rangée. On a eu un premier gros coup de main le 8 mars grâce à Benenova, où des bénévoles sont venus nous aider à faire des premières catégories. Mais on travaille encore dessus. Pour nous, c'est pas encore ça. Ça prend du temps. Là, on va sur ma partie préférée aussi. C'est l'espace scène. Pareil, c'était vraiment une de mes premières... quand on faisait les plans, c'était vraiment ma condition, c'est qu'il y ait une scène pour pouvoir faire des projections cinéma, des micros... des petits stand-up, pour pouvoir animer et qu'il y ait un espace de prise de parole. Et là, c'est plus un espace qui permet de faire de l'animation, mais c'est trop bien. J'adore voir les petits jouer parce qu'on a des dinettes, des mini-cuisines à taille enfant. Et du coup, ouais, c'est assez chaleureux. Le dernier espace, c'est notre entre guillemets coin coffee. C'est quatre gros canapés, trois, et avec un mur en brique que j'avais peint avec une personne qui était hyper engagée dans le milieu associatif et qui est décédée il n'y a pas très longtemps, Yazid. Et du coup, petit message d'amour et de soutien pour toute sa famille. Il a posé des pierres à l'édifice du réfectoire. Et aujourd'hui, ça fait depuis l'été dernier, on a plein de photos en fait, d'un projet culturel qu'on avait réalisé. Donc là, on voit une famille qui a été prise en photo parce que c'était des projets autour de la mise en place d'albums photos. Donc on a plein de familles du réfectoire qu'on peut voir en photo sur ce mur que j'aime trop et qui va bientôt être refait parce que avec Rodrigo, on est en train de monter une exposition. Donc on vous invite tous d'ailleurs le 2 juillet, ça sera le vernissage de cette exposition autour de trois gros projets. Du réfectoire et on a trop hâte.
Super, en tout cas le mur est vraiment génial. Enfin, tu t'es effectivement bien fait aider. Enfin, c'est vraiment un super taf et personnellement en arrivant, je trouve que c'est sûr que c'est la première chose qui saute aux yeux avant la petite scène de spectacle pour les spectacles que tu nous décrivais tout à l'heure. Donc merci beaucoup.
J'espère qu'en tout cas ça vous aura donné envie de venir le voir et pas juste d'entendre une description, que vous avez pu vous projeter et que vous allez pouvoir voir la réalité. Et en tout cas, on vous accueille avec plaisir avec Kevin et Marie tous les jours, du lundi au vendredi.
Merci beaucoup Léna pour cette visite hors les murs. Je termine peut-être en te posant effectivement notre question emblématique de fin d'émission. Déjà, peut-être avant de la poser, est-ce que tu savais, avant qu'on en discute tout à l'heure, ce qu'était une astragale ?
Pas du tout. C'était une petite découverte.
Super. Alors donc la fameuse question, astragale ou pas astragale ?
Astragale. Carrément astragale.
En tout cas, bravo pour tous ces beaux projets menés. Je remercie chaleureusement donc notre invitée, évidemment Léna, et merci de m'avoir fait découvrir ce lieu, mais également Fréquence Mistral qui rediffusera cette émission et cette première édition des Hors les Murs pour Astragale. On va peut-être terminer, Léna, si tu le veux bien, par le morceau que tu as choisi, que tu m'as communiqué de Jules, J'oublie tout. Est-ce que tu veux peut-être nous dire un petit mot sur ça avant de fermer ?
Ça, c'est la chanson que j'attends à chaque soirée quand je suis avec mes amis. Parce que ouais, c'est notre chanson totem, on va dire. Et aussi, pour la petite anecdote, quand j'ai créé l'association, j'ai des souvenirs. Enfin, je me rappelle encore être en soirée avec mes potes et essayer de leur expliquer ce que j'allais faire. Parce que c'est vraiment les premiers qui m'ont écouté et qui m'ont suivi parce qu'ils ils ont accompagné la création de l'association. Et du coup, en fait, on peut pas clôturer cette émission sans leur faire un petit clin d'œil. Et voilà. Donc, J'oublie tout de Jules, c'est vraiment notre chanson de soirée.
Super. Alors, on l'écoute pour clôturer ça. Et je vous dis à bientôt. Merci à tous.
Famille, la casse, sur une nuit blanche, casse pas les couilles. donné ton amour. J'ai rien à prouver.
Ce soir j'oublie tout, cherche mon chemin, j'fais des détours. Ce soir j'oublie tout, et quand je repense à ce jour, j'me dis que la vie est courte, on partira tous un jour. Alors j'm'en tape de vos discours, derrière le bonheur moi je cours. Ce soir j'oublie tout, cherche mon chemin, j'fais des détours. Ce soir j'oublie tout, et quand je repense à ce jour, j'me dis que la vie est courte, on partira tous un jour. Alors j'm'en tape de vos discours, derrière le bonheur moi je cours.